Veci nasceni, liberi, alleluia. Qui iacque memuis qui pota me, alleluia. Resurrexit sicut dixit,
présence à Super Bagnères 94.
Et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus avec le beau temps qui est au rendez-vous et ce sourire que j'ai en face de moi. Bonjour Anne-Rose Jankovic.
Adieu Philippe, Kenteba.
Kenteba.
J'arrive de la STIA de Bigorre.
Aïe, 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 aïe. Bravo, vous êtes notre globe-trotteur puisqu'aujourd'hui, vous nous amenez du côté d'Ibos pour la STIA. Et puis, on parlera aussi d'un bel événement que vous avez vécu hier, c'est l'inauguration des nouveaux locaux de la Ligue contre le cancer des Hautes-Pyrénées.
Exactement. Ces nouveaux locaux qui sont en plein centre-ville de Tarbes. Hier, c'était l'inauguration. Alors, ça en dit long sur les actions de la Ligue contre le cancer. Ces nouveaux locaux inaugurés à Tarbes permettent d'accueillir un grand nombre de personnes qui souffrent de cette maladie du cancer, de leur proposer un accompagnement assez global. Mais il faut dire, et vous allez l'entendre dans quelques minutes, que cet accompagnement proposé par la Ligue, il est présent dans tout le territoire des Hautes-Pyrénées. C'est comme ça partout en France.
Voilà, avec des espaces Ligue, effectivement. Vous avez bien raison de le préciser. Et les nouveaux locaux, bon, on va déjà donner l'adresse, c'est 27 rue de Gonesse à Tarbes.
Exactement.
Voilà, pas très loin de là, le Broban, pour faire simple.
Vous en savez déjà presque autant que moi, ouais, avant même d'écouter le reportage.
Mais parce que moi, dès qu'il y a une halle, vous comprenez bien que je repère ce qu'il y a autour. Et puis, nous irons faire un tour au Pic du Gers aussi, grâce à Gilles Galbardi et l'Office du tourisme de Lourdes. Voilà, donc.
Et puis, l'agenda du diocèse. Et puis,
bien sûr, l'agenda juste après. Les titres de l'actualité. De ce jour avec les élèves de l'école du journalisme de Toulouse.
La municipalité de Toulouse dénonce un déséquilibre dans la future carte scolaire avec deux fois plus de fermetures que d'ouvertures de classes. Elle craint une aggravation de la surcharge des effectifs. L'académie justifie ses mesures par une baisse démographique et renforce les remplaçants. À Cahors, quatre grands chefs cuisiniers, dont Clément Coste du château de Mercues et Julien Poiseau du restaurant chez Suzanne, cuisinent pour remercier les donneurs et encourager le public à participer aux dents du sang toute la semaine. Après 20 ans de combat pour récupérer leur maison squattée en Ariège, un couple de retraités la retrouve totalement saccagée et perdent toutes leurs économies. Les habitants de Villeneuve-près-Marsac retournent aux urnes en juin pour enfin élire son conseil municipal après l'absence totale de candidats lors des dernières élections et plusieurs mois de gestion provisoire. Le palais épiscopal de Rodez fait l'objet d'une rénovation majeure de 21 millions d'euros. Le département souhaite transformer ce site historique en lieu culturel et ouvert au public. L'inauguration est prévue au printemps 2028 et vise à dynamiser l'attractivité de l'Aveyron. Et enfin, le Parc national des Pyrénées célèbre le pastoralisme lors de l'année internationale des éleveurs lancée par l'Organisation des Nations Unies. 6 actions sont prévues pour valoriser cette tradition millénaire.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi avec aujourd'hui Jenny Lee Chip de l'Institut supérieur du journalisme de Toulouse. On la retrouvera d'ailleurs tout à l'heure à partir de midi et demi pour le journal complet de la région pour la mi-journée. Puis le retour de l'actualité, vous le savez, ce sera 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican.
Radio Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Vous aurez remarqué, Anne-Rose Jankovic, le jingle qui vous voussiez, hein, le diocèse de Tarbes et Lourdes. Il va être question de l'agenda avec vous. Alors, Anne-Rose Jankovic, il n'y a pas de document sous les yeux. Ben, moi, je vais vous laisser tranquillement errer dans ce bel agenda.
Eh bien, je commence avec un rendez-vous dont j'ai déjà parlé depuis plusieurs semaines. Mais allez, j'en remets une couche parce que ça approche. C'est ce samedi 25 avril. Tous les fidèles du diocèse de Tarbes et Lourdes ont rendez-vous pour une journée autour de la figure spirituelle du bienheureux Pascal Vergès. Pascal Vergès, C'est ce prêtre Bigourdan qui est mort en martyr de l'apostolat dans un camp de travail nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Il a été béatifié le 12 décembre dernier à Notre-Dame de Paris avec 49 autres de ses compagnons. Et puis ce samedi 25 avril, nous vivrons une journée vraiment de, à la fois de recueillement, une journée mémorielle, mais aussi un temps de prière, un temps fort pour tout le diocèse de Tarbes et Lourdes. Ça commencera à 15h avec une prière pour les vocations sur la tombe du bienheureux Pascal Vergès. C'est au cimetière d'Argelès-Gazost. Et puis ensuite, nous irons à Aucun, c'est le village natal de Pascal Vergès, où nous entendrons à 16h30 une conférence de Monseigneur Jacques Perrier, l'évêque émérite de Tarbes et Lourdes. Ça se passera en la salle des fêtes d'Aucun. Il nous racontera la vie et surtout la fin de cette vie donnée de Pascal Vergès. Et puis à 18h, il y aura la messe présidée par Monseigneur Mika en l'église d'Aucun, suivie d'un apéritif dans la salle des fêtes. Voilà, alors je dis que tous les fidèles du diocèse sont conviés, mais également les habitants de la Bigorre, de la vallée. Nous serons accueillis par la mairie d'Aucun et des habitants d'Aucun qui se font une joie de célébrer ainsi cette figure spirituelle née chez eux.
Voilà, un saint d'ici. Voilà, on laisse juste le temps de prendre votre respiration et on continue à égrener tranquillement l'agenda que vous avez sélectionné pour nous.
Un rendez-vous pour les enfants et leurs parents au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes ce samedi 25 avril également. C'est la catéchèse spécialisée. C'est un rendez-vous pour les enfants porteurs de handicap avec leur famille. Ce groupe qui s'appelle les Amis de Bernadette. Donc c'est pour les enfants de moins de 12 ans qui sont fragiles et qui sont porteurs du handicap. Ils se rassembleront de 14h30 à 17h au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes autour de ce thème, la résurrection. Je reconnais ta présence dans ma vie. Voilà, c'est un rendez-vous qui est organisé, donc comme je le disais, par le service diocésain de la catéchèse.
Voilà pour cette information. On continue cet agenda. Vous avez en main votre, votre journal qui s'appelle le bulletin religieux.
Le bulletin diocésain. Alors voilà, on prend le bulletin diocésain et ou l'application au clocher et on va de nouvelle en nouvelle. Alors si vous ouvrez le bulletin diocésain dans la page agenda, vous verrez qu'il y a deux rendez-vous de prière encore ce week-end dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Un rendez-vous comme chaque mois à l'église Saint-Vincent-de-Paul, c'est dans le quartier de Laubadère à Tarbes. C'est ce samedi 25 avril à partir de 20h30, un temps de louange risen, Jésus sauve. Et bien Jésus vous sauve aussi d'ailleurs Philippe. Et donc pour louer le Seigneur et rendre grâce au Seigneur, vous avez donc rendez-vous pour ce temps de louange comme chaque mois 20h30, l'église Saint-Vincent-de-Paul à Tarbes. Et puis dimanche 26 avril, un autre temps de prière, cette fois-ci c'est au sanctuaire marial de Piétat, la chapelle Notre-Dame de Piétat à Barbazan-des-Battes, voilà, où vous avez rendez-vous à partir de 16h30 pour la prière du chapelet, suivi d'un temps de veillée à partir de 17h, voilà, sur ce thème consoler mon peuple. Alors ce sont des temps de prière qui sont ouverts à tous. Parfois on nous dit, ah oui mais moi j'ai pas osé venir parce que j'ai des enfants, je sais pas, j'ai peur qu'ils fassent du bruit. Eh bien venez avec vos enfants qui font du bruit, ça fait plaisir.
Voilà, vous n'en avez pas, des enfants qui font du bruit, vous?
Si, mais dans ces moments-là, ça fait plaisir.
Voilà. Je sens, on sent, on dit qu'on entend le sourire, on voit le sourire à travers la voix. Là, je peux vous dire que vous êtes toutes le sourire.
Mais oui, il ne faut pas que ce soit un frein, au contraire. Mais vous savez, alors allez, la petite anecdote dans cet agenda, qui n'est pas comme d'habitude, il faut bien dire.
Mais non, il n'y a pas celui qui...
Il n'y a pas Jingle Bardi, c'est pas comme d'habitude.
Je suis désolé.
Allez, la petite anecdote. Dimanche dernier, je me trouvais donc à la messe dans une petite église du diocèse de Tarbes et Lourdes, dans un petit village. Et il y avait là un jeune couple qui poussait la porte timidement de l'église avec un tout petit bébé. Et pendant l'homélie, le bébé s'est mis à pleurer. Le couple a voulu sortir et le prêtre a dit « Ah non, surtout ne sortez pas, ça fait tellement plaisir d'entendre un bébé pleurer. Surtout restez, parce qu'évidemment, vous avez bien sûr votre place dans cette église avec votre enfant. » Et bien c'est pareil pour les temps de prière. Ouais, voilà pour l'anecdote.
On oublie effectivement que les enfants sont les bienvenus et aussi les personnes handicapées.
Bien sûr, voilà. Évidemment. On est tous les bienvenus dans l'église.
Dans l'église.
Alors, je continue si vous voulez bien. On a aussi rendez-vous pour deux concerts. Alors c'est un peu plus tard, c'est au mois de mai cette fois-ci. Je vous propose deux concerts. Le premier, vendredi 8 mai à 18h dans l'église Saint-Martin à Arcisans-Savant pour écouter la messe en sol de Poulenc qui sera interprétée dans un concert vocal a cappella par l'octuor Les Pléiades. C'est un concert ouvert à tous avec une libre participation vendredi 8 mai à 18h. Et puis si on va dans un tout autre coin du diocèse de Tarbes et Lourdes, plus au sonore du côté du sanctuaire Notre-Dame de Garaison. Nous avons rendez-vous cette fois-ci le samedi 9 mai en l'église, en la chapelle du sanctuaire de Garaison pour un concert de musique sacrée autour des peintures du sanctuaire qui ont été restaurées. Il y aura à l'orgue Blandine Piccini et pour chanter soprano, la soprano Claire Bouissou. Participation libre mais nécessaire pour l'entretien des œuvres. Voilà, rendez-vous donc un rendez-vous aux portes du Val d'Azun et un autre au sanctuaire Notre-Dame de Garaison dans le Magnoac.
Dans le Magnoac, effectivement. Voilà pour les concerts. D'autres rendez-vous ?
Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui.
Et c'était déjà pas mal. Alors, dans quelques instants, le temps d'un jingle, Anne-Rose, et puis on se retrouve puisque vous avez commencé cette émission en parlant patois. On va parler de la Estéiade.
Oui, j'ai fait une petite cure de patois ce week-end pour la 47e édition de la Estéiade de Bigorre. J'ai ouvert aussi le micro et vous allez entendre ça dans quelques instants.
Sur le plateau du Larzac, 106.5.
Alors c'était dimanche dernier, je crois, Anne-Rose Jankovic, vous étiez donc, vous avez participé à la Estéiade.
La Estéiade, la 47e Estéiade de Bigorre, c'était vendredi, samedi et dimanche des 17, 18 et 19 avril dernier. Ça se passait comme chaque année à Ibos qui est devenu le poumon de la culture gasconne en Bigorre, le temps d'un week-end. Et à cette occasion, eh bien, j'ai ouvert le micro de Radio Présence. Alors attention, ça décoiffe un petit peu parce que vous allez entendre d'abord des chanteurs qui ont participé à ce week-end, comme alors il y avait beaucoup de conteurs aussi, des conteurs, des danseurs, voilà, beaucoup d'artistes bénévoles qui racontent à leur manière, à leur façon, la culture occitane. Et puis vous entendrez Madame la sénatrice Maryse Carrère qui a aussi répondu à mes questions puisque elle-même se promenait sous les chapiteaux de la Estéiade.
Mais vous avez toujours du très beau monde à votre micro,
oui.
Madame Rojankovic. Allez, on part pour Ibossa.
Adieu, et va se plat. Où est-ce que va plan? Nous avons dit ce que va plan. Que encantat ho era la Estéiade, la vez nosaltres que arribam de la Balea d'Azun. E que ens apedam és d'Azun, tout simplement.
Alors, vous venez de la Vallée d'Azun et du Val d'Azun et vous vous appelez les chanteurs du Val d'Azun, tout simplement.
Es d'Azun, ceux d'Azun, es d'Azun, c'est-à-dire...
Ceux d'Azun. Voilà. Bon, c'est pas trop mal quand même. J'ai décrypté, mais je suis pas capable d'en dire autant. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Alors, moi je vais me présenter. Je m'appelle Pierre Gerbet et je suis président de l'association Es d'Azun, qui est donc notre chorale. Et nous sommes 24 chanteurs.
Aujourd'hui. Que des hommes.
Que des hommes. Nous ne sommes ni racistes ni misogynes, mais c'est un choix parce que lorsque l'on chante, on se rend compte que les voix des hommes sont légèrement plus aiguës que ceux des femmes. C'est un constat. Et nous, plutôt que de tenter cela, c'est un choix et cela fait 30 ans qu'on chante ensemble.
Pourquoi c'est important pour vous de chanter l'histoire de votre pays, de votre terre?
C'est une question qui me plaît. Comme aurait dit un politicien autrefois, je m'attendais à cette question. Donc, vous dire que tout simplement, nous, entre nous, déjà, on parle occitan.
Tous les jours, c'est votre langue maternelle, vous parliez.
Oui, alors je suis de ceux qui ont été à l'école pour apprendre le français.
À partir de quel âge?
À 5 ans, j'étais à l'école communale de mon petit village, alors 6 ans dessus, et là, l'institutrice, eh bien, nous a appris. Mes parents avaient fait l'effort de commencer à nous engager dans le français, mais on a appris le français à l'école. Et alors mes deux collègues qui sont là, il y a Jean-Édouard, Bayonne en plus, mais il n'est pas de Bayonne, il est d'Arras, et Joseph Romiguet, qui est originaire de Beun, qui habite Saint-Savin, eux, quand on se cause, même au téléphone...
On parle occitan.
On parle occitan. L'occitan, ce n'est pas, un dialecte, c'est une langue. Moi, j'ai ma petite fille qui a passé le bac il y a 3 ou 4 ans, option occitan.
Ça veut dire que ce n'est pas une langue morte?
Elle n'est pas morte du tout. Le problème, c'est que l'éducation nationale, il y a quelques années, n'a pas tout fait pour que l'on parle encore occitan. Ils ont, quand j'étais en 6e, si j'échappais un mot et ça m'arrivait en occitan, le professeur de l'époque me disait « C'est l'école de la République ici, l'occitan vous laissez chez vous ».
Alors qu'au fond, on entend bien là que c'est votre fierté quand même, cette langue occitane.
Oui, tout à fait, parce que nous, moi je le parle, je sais le lire, je l'écris pas trop parce qu'on n'a pas l'occasion de l'écrire. Voilà. Et donner la parole à mes collègues, ils vont s'exprimer.
Les collègues, alors faites-moi une petite place, les collègues. Voilà, merci. Alors, dites-moi, rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît.
Jean-Édouard.
Jean-Édouard.
Moi, je le parle moins qu'eux, mais c'est surtout parce que lui, c'était les bergers. Et dans la montagne, les bergers, voilà, il ne l'a pas dit, c'est des bergers. Et dans notre groupe, il y a beaucoup de gens qui sont bergers. Et les bergers, ils ne parlaient qu'occitan entre eux. Ils ne parlaient pas le français, ils ne parlaient que l'occitan. Donc, si vous voulez, on essaye de transmettre et de garder ce parler. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'occitan et qu'ils veulent le garder surtout.
Alors moi, je voudrais savoir, dans vos chants, qu'est-ce que vous racontez? Parce qu'il y a la langue, mais il y a aussi les paroles qui comptent vous raconter l'histoire de votre vallée, de votre pays, à travers les paroles, les histoires, qu'est-ce que ça raconte?
Les chants que l'on chante, ils ont tous une histoire. Chaque chanson a une histoire. Parce qu'il faut d'abord dire que ce n'est pas une langue morte, d'abord. Elle existe toujours. Elle est belle. Et alors, en chanson, il y a des intonations qu'on ne peut pas faire en français.
Par exemple?
Ah, je n'ai pas en tête, mais il y a des finales de chant.
Des accords qu'on n'arrive pas à faire en français et qu'on arrive à faire en patois, bien souvent. Et souvent, on n'est pas musicien. Il n'y en a aucun de musicien dans le groupe.
Ah bon, il n'y a pas de musicien dans votre groupe. Sur les 24, là, il n'y a pas de musicien.
Lui, il tape un peu de l'accordéon.
Pas beaucoup. Mais on fait beaucoup à l'oreille. Et c'est des accords à l'oreille. Alors, la haute, la basse, il y a plusieurs voix, mais c'est des accords à l'oreille. Voilà.
Est-ce que vous savez pourquoi on met un béret? On met un béret surtout pour ne pas voir la couleur des cheveux qui sont dessous.
Ah pardon, mais ça dépasse un peu.
Tu dis que tu mets le béret pour que les idées s'en aillent pas.
Voilà, ça c'est beau. Ça c'est beau.
Garder le béret pour pas que les idées s'évaporent.
Ce qui est formidable, c'est que on a un esprit dans le groupe de famille. C'est, il y en a un de malade, on va le voir, on va le bichonner quoi. Oui. Et ça c'est émouvant.
Ah ben, je vous sens ému.
Oui, là je suis ému.
Oh.
Ça m'est arrivé.
Ah ben, vous allez me faire
ça fait plaisir.
Ah ben, ça c'est les vrais copains ça.
Ah oui, alors là que. Actuellement, on a un qui est sur Cotteret qui a des problèmes de santé assez embêtants. On prend des nouvelles tous les jours. On sait qu'il va se faire opérer autour du 20 du mois d'avril, donc c'est cette semaine. Et on est inquiet pour lui, quoi, tant que ce n'est pas fait. Quoi. Et puis, on ira le voir en rééducation, tout ça, pour lui maintenir le moral.
Alors, allez, pour maintenir le moral à votre copain qui va peut-être écouter la radio, on se quitte en chanson. Un petit refrain pour me faire plaisir. Pour faire plaisir à votre copain qui va nous écouter.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous chante?
Ah, parce que vous voulez, c'est pas moi qui suis bigourdane. Hein. Ah, bah oui, en patois, parce que sinon ça compte pas.
Aqueros montaños que tallas tú me empezaron a ver más amos se cante y yo que cante y cante pas perio cante perma mía que ya perdí.
Robert, vous faites partie de Semiak en Bigorra, c'est la chorale de Semiak qui chante en bigourdan.
Exactement, c'est un des groupes de Semiak, c'est plusieurs groupes à Semiak, mais c'est le seul qui chante en bigourdan et qui chante à la Estéiade depuis 45 ans. Oui, on tourne entre 15 et 16. Ouais.
Alors, est-ce que c'est un chœur d'hommes exclusivement? Est-ce que c'est un mélange?
Alors, c'est un chœur un peu mixte, parce qu'il y en a qui ont la moustache et d'autres qui ne l'ont pas, mais sinon il n'y a que des hommes.
Que des hommes, et vous ne chantez qu'en bigourdan?
On chante essentiellement en bigourdan. Il nous arrive de chanter avec les autres ici en français, bien sûr, parce que les chansons qui se transmettent de génération en génération dans les Hautes-Pyrénées, il y en a pas mal qui sont en français, mais ce sont des chansons traditionnelles. Mais sinon, nous, quand nous produisons sur scène, nous chantons qu'en bigourdan.
Alors, vous m'avez dit, juste avant que j'allume le micro, je vous ai demandé, mais qui est le chef de la chorale? Me dit, il n'y a pas de chef. Alors que c'est une chorale sans chef de chœur.
Alors, on pratique le chant naturel pyrénéen. À savoir que c'est pas, il n'y a pas une, il n'y a pas de partition, il n'y a pas de chef, puisque il y a un bazar organisé qui s'organise autour comme ça se faisait dans les bistrots il y a 150 ans ou même davantage, ou dans les champs, il y a quelqu'un qui se met à chanter et les autres arrivent, se greffent et font leur voix.
Alors ça, c'est les fameuses canters, c'est ce qui se passe là sous le chapiteau au côté duquel nous sommes. Les gens sont à la buvette et hop, quelqu'un démarre un chant et tout le monde suit. Mais quand on va dans l'autre chapiteau à côté où les chorales passent les unes après les autres, ça semble un peu plus... plus orchestré,
ça semble plus structuré, effectivement, mais les gens se sont structurés de cette façon-là. D'accord. Chacun amenant ce qu'il est, ce qu'il a en capacité de faire, et qui vient nourrir l'harmonie. Et l'harmonie se fait aussi naturellement, à l'oreille, en écoutant l'autre et en s'écoutant au sein des autres. C'est tout l'intérêt pour moi et pour le groupe, pour pas mal de groupes, de pratiquer ce type d'harmonie et de chant.
Et oui, parce que vraiment tout est basé sur l'écoute de l'autre et le souhait d'être ensemble. Parce que en fait, depuis que j'ai ouvert le micro de Radio Présence, je ne suis pas encore tombée sur un seul musicien. Je suis tombée que sur des personnes qui m'ont dit, moi je connais pas du tout la musique et ça m'empêche pas de chanter juste les chants bigourdants.
La plupart des gens ne connaissent pas la musique, mais apparemment la musique semble les connaître, puisqu'ils arrivent à s'y retrouver les uns les autres. Et effectivement, ce qui est le plus important, mais dans ce type de chant, ou même dans le chant harmonisé avec un chef de chœur, c'est s'entendre soi-même au milieu des autres. Et c'est pour moi la seule, et pas que pour moi, hein, la seule façon d'arriver à produire quelque chose d'harmonieux et qui est pas fixé, qui est pas figé, qui peut évoluer dans le temps en fonction des capacités des uns et des autres. Donc c'est toujours en dynamique, toujours en mouvement, c'est passionnant.
C'est pour ça que vous chantez. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la chorale, vous ?
Moi, ça, depuis 80. Depuis 1980. Pas depuis 80 ans, je ne sais pas encore.
Depuis 1980, vous chantez et vous ne vous lassez jamais.
Non, comme je vous disais, la dynamique évolue tout le temps en fonction des apports des autres. Le groupe n'est pas le même depuis 1980. Il y a des jeunes qui sont arrivés, des vieux qui sont partis. Donc, il y a sans cesse du mouvement, et c'est ça qui est intéressant. Si c'était tout le temps la même chose, on se lasserait rapidement quand même. Et les gens qui écoutent ou qui essaient d'écouter, se lasseraient encore plus vite. C'est ce qui nous mène aussi, ce qui nous porte, c'est essayer de donner envie à ceux qui écoutent, aux plus jeunes, de venir chanter, ou de chanter eux-mêmes, et de chanter en occitan, bien sûr, parce que la langue et la culture, pour nous, sont aussi notre point central. On a un objectif, quand même, qui est commun à tout le groupe, c'est de montrer que cette langue, elle est magnifique, que la culture, elle a son importance, qu'elle n'est pas si vieille que ça, qu'elle peut continuer à vivre et qu'elle est actuelle. Et j'ai appris l'occitan en chantant, après je l'ai structuré par l'écrit, mon dernier emploi, c'était chargé de mission à la culture et la langue occitane au conseil départemental des Hautes-Pyrénées.
Et vous êtes sicilien ?
Et je suis sicilien.
Alors vous avez découvert par le chant, pas seulement une histoire, pas seulement le chant, mais toute une culture en fait.
Je suis arrivé à l'âge de 2 ans en France, dans les Hautes-Pyrénées, et j'ai toujours baigné dans cette culture, ce son, cette musique de langue qui, même dans le français parlé ici, existe. Enfin, cette musique de langue, elle est partout. On la lit sur les panneaux, sur les noms de villages, sur les noms de maisons, de gens. Donc je me suis imprégné comme la plupart des gens qui sont nés ici. Sauf que je ne suis pas né là.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Madame la sénatrice, mon petit doigt m'a dit que chaque année vous étiez présente ici à la STIA de Bigorre, à Ibos. Pourquoi c'est important pour vous d'honorer ce rendez-vous ?
Alors oui, effectivement, chaque année, je ne rate pas une STIAD. C'est important parce que c'est une fête traditionnelle et très implantée dans notre département. C'est une fête mythique, je dirais. Enfin, c'est une fête où on retrouve vraiment tous les gens qui partagent l'amour de la langue gasconne, de l'occitan et le chant, autour du chant, bien sûr. Et vraiment, c'est un moment partagé très fort qui ressoude et qui renforce notre identité aussi culturelle.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment un événement culturel, mais c'est notre patrimoine, mais on voit aussi qu'il y a peut-être eu des années où on se posait la question comment transmettre aux plus jeunes. Là on voit que les jeunes, ils sont présents, hein, on les entend chanter, ils sont là notamment pour la journée du vendredi, mais ils sont là aussi dimanche. Selon vous, qu'est-ce qui fait que ça intéresse encore les jeunes, cette culture qui est vraiment très locale ?
Alors, c'est vrai que c'est un phénomène un petit peu récent. Ça fait une dizaine une année que je vois des jeunes revenir au chant occitan, au chant patois. Et je pense que c'est ce besoin d'avoir une identité aussi. Dans un monde où l'on vit, on est un peu chahuté, où on ne sait pas trop où on va, on a un sentiment, pas de repli, mais de se chercher des points communs et des origines communes et une identité culturelle commune. Je pense que c'est ce besoin-là qui est très fort. Et puis je pense qu'il y a aussi un travail qui a été fait par ceux qui ont voulu, ceux qui aujourd'hui sont passionnés par la langue occitane, de transmettre au travers de l'éducation nationale. Il ne faut pas oublier qu'ici, à Aussun, à Ibos, vous avez des classes bilingues, vous avez des calendrettes aussi dans le département. Et c'est important de se dire que ben, dans l'école, dans l'éducation nationale, il y a des enfants aujourd'hui qui apprennent l'occitan.
Oui, j'ai interviewé une chorale dont certains membres ne racontaient que quand eux, ils étaient enfants, voilà, quand ils ont appris le français à l'école, on leur interdisait le moindre mot occitan, oui. Qu'on les punissait quand par mégarde, ils sortaient un mot occitan. Aujourd'hui, c'est quand même l'inverse. La langue occitane est un honneur quand on peut l'apprendre.
Oui. Ah oui, complètement. C'est une langue chaleureuse. C'est la langue du bonheur, du plaisir, de la fête, de la convivialité. Donc c'est tout ça, tout ce que représente cette langue. Moi je sais que je la pratique pas, je la parle
C'était ma question suivante. Mais vous comprenez là tout ce qu'il chante et tout ce qu'il raconte.
Alors moi c'est assez curieux parce que c'est un peu comme ma deuxième langue maternelle, parce que chez moi mes parents et ma grand-mère ne parlaient qu'en occitan.
Ah oui.
Donc pour moi ça a été
Vous avez baigné dedans tout
petit. Voilà, c'est comme le français, je comprends parfaitement. Vous allez me parler en patois, je vais comprendre tout ce que vous allez me dire. Par contre, je le parle très mal parce que je ne le pratique pas suffisamment. Et alors, je le chante très bien, par contre, voilà.
Voilà, vous êtes au bon endroit.
Oui, là, oui.
Alors, pardon pour cette question qui va peut-être un peu vous surprendre, mais vous avez l'air d'être ici vraiment comme un poisson dans l'eau. On ne sait pas tellement, du coup, si c'est l'ami des Bigourdans qui vient, la copine qui vient voir ses amis chanter, ou bien madame la sénatrice.
Oh, ben, c'est un peu tout. Ouais. C'est un peu tout. Vous savez, il n'y a pas, je pense, à détacher la sénatrice de la personne que je suis au quotidien. Et d'ailleurs, ici, vous voyez, personne ne me voit en tant que sénatrice. Hein, mais je pense que c'est important qu'on puisse partager ces moments tous ensemble et que la sénatrice aussi que je suis puisse porter ça dans son cœur. Il y a un poème de, je pense que c'est Fernandel qui chantait que quand on part à Paris, on amène un peu de la terre à ses souliers. Moi, c'est ce que je fais au quotidien. Quand je monte à Paris le lundi soir, j'amène à mes souliers la terre de Bigorre. Voilà.
Là, vous aurez pas mal de choses à raconter à Paris après ce week-end. Ma dernière question, c'est l'organisation de cet événement. On a maintenant l'habitude de voir des événements qui tout de suite prennent une ampleur différente avec l'ère du numérique. Tous les événements doivent devenir des événements 2.0. Ici, c'est un peu différent. C'est toujours la bonne franquette. On n'a pas besoin d'être des experts d'Internet pour savoir où se passe la STIAD, pour savoir comment y venir, pour pouvoir la vivre tout simplement. Ça, c'est un peu étonnant aussi. On se dit, bah, tiens, c'est un peu en décalage, mais ça marche.
Mais c'est la tradition orale, la transmission orale. Et puis, c'est la magie aussi de tous ces bénévoles autour de Mathieu qui font un travail extraordinaire au quotidien, pendant toute l'année, hein, pour préparer, parce que c'est du boulot quand même, hein, quand on voit parce que l'installation, c'est quand même énorme. Je pense que quand même, on peut vraiment les féliciter. Puis voilà, c'est la transmission orale. On sait que chaque mois d'avril, on vient avec plaisir à la STIAD.
Allez, vous me dites au revoir en Bigourdan.
À Nichat.
Voilà, la sénatrice Maryse Carrère qui clôturait ce reportage réalisé à la 47e Estéiade de la Bigorre. C'était ce week-end à Ibos, à côté de Tarbes. Et vous l'avez entendu, l'occitan n'est pas une langue morte. L'occitan raconte toujours la vie, la terre, le patrimoine, l'histoire et puis le présent, puisque ça s'apprend, vous avez entendu, hein, Philippe, ça s'apprend dans plusieurs écoles des Hautes-Pyrénées. Bravo oui. Donc aux bénévoles et puis longue vie à la Estéiade.
Oui, et puis petit Mathieu qu'on a entendu, Mathieu Carassus,
bien sûr. Président de la Estéiade.
Et qui est chantre au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Voilà, merci.
Que de talent.
Mais alors, on va juste sortir tout à l'heure, dans quelques minutes, de Tarbes. On partira pour la rue de Gonesse à Tarbes, puisque cette fois-ci, on va parler d'un autre sujet. Peut-être, même si le moment était festif, peut-être un peu moins festif, puisqu'on va parler d'une maladie. Et je pense que tout le monde qui nous écoute là, sur le poste, connaît quelqu'un, ou peut-être malheureusement a été touché personnellement par cette maladie qui est le cancer.
Exactement, et la Ligue contre le cancer a inauguré hier ses nouveaux locaux en plein centre-ville de Tarbes, un événement qui nous permet de rappeler à quel point le travail de la Ligue est très important à Tarbes et puis partout dans le territoire.
Alors, on va rester un peu dans cette tonalité. Je vous propose d'écouter un petit groupe qui est pas très loin de chez nous, qui s'appelle le groupe Kekio, et on parle tout simplement, voilà, les mots d'ici.
Radio Présence à Argelès-Gazost 91.9.
Accosté au port de Bayonne, entre la Nive et la Dour, dans mon cœur ces mots qui résonnent comme l'union de tous ces hommes. Les embruns de l'océan transportés par le vent s'engouffrent dans les boulevards pour faire danser les foulards. J'ai compris que vivre ici, malgré mes échecs de la vie, ce beau pays qui m'a construit, que tant de monde nous envie, ce besoin de voyager sans pour autant m'attacher. Du jour où je t'ai rencontré, ton regard en moi s'est ancré. Des mots d'ici, plus tu partiras loin, plus tu en auras besoin. Agour, 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 Bayonne, mes amours, des mots de tous les jours qui riment avec toujours. Au pied du château de Pau, face à la vallée d'Ossau, assis sur les pavés, boulevard des Pyrénées,
je pouvais partir d'ici, bâtir une autre vie, oublier tout changer, je l'aurais regretté.
De New York à Dubaï, en passant par Miami, Paris est dans la place, la mienne n'est pas dans les palaces. Cette fois-ci c'est gagné, tout l'amour que tu m'as donné m'a enfin poussé à choisir pour le meilleur et pour le pire. Où ce sont des mots d'ici, plus tu partiras loin, plus tu en auras besoin. Agour, 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 Bayonne, mes amours, des mots de tous les jours qui riment avec toujours. Tu seras là pour me poser, et mon repère, ma liberté, et grâce à toi je survivrai.
Quand le soleil se couche à l'ouest, plus de force pour un seul geste.
Sur cette plage d'Osegor, c'est dans tes bras que je m'endors. Adieu, 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 ce sont des mots d'ici, plus tu partiras loin, plus tu en auras besoin. Adour, 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 Bayonne, mes amours, des mots de tous les jours qui riment avec toujours. Adieu, 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 ce sont des mots d'ici, partiras loin, plus tu en auras besoin. Agour, 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 des mots de tous les jours. Agour, 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 qu'on chante avec amour.
Les mots d'ici, à l'instant, c'était le groupe Kekio sur Présence. Il est 12h passé de 33 minutes. On retrouve tout de suite l'actualité qui nous est présentée par l'École du journalisme de Toulouse.
Les services académiques ont présenté le projet de carte scolaire à la rentrée en Haute-Garonne. Il prévoit 82 ouvertures contre 193 fermetures de classes. La ville de Toulouse s'est abstenue lors du Conseil départemental de l'Éducation nationale dans le but d'alerter le ministère sur la surcharge des effectifs. L'académie explique ses décisions par une baisse de 2600 élèves dans les écoles. En parallèle, 80 postes seront créés pour renforcer les enseignants remplaçants. À la maison du Don de Cahors, quatre chefs cuisiniers locaux préparent des collations gourmandes pour les donneurs de sang. L'établissement français du sang organise cette opération jusqu'à samedi. Cette initiative vise à compenser la baisse habituelle des dons pendant la période des vacances. Les plats sont signés par des chefs réputés du Lot, comme Clément Coste du château de Mercues, ou encore de Julien Poiseau du restaurant chez Suzanne, un geste convivial pour remercier la solidarité des habitants. Un couple de l'Ariège a récupéré sa maison située à Pamiers après plus de 20 ans de procédure judiciaire engagée contre un locataire. Celui-ci avait installé des membres de sa famille sans en informer les propriétaires. À leur retour, ils ont découvert un logement en très mauvais état. Ce bien acheté à l'origine pour préparer leur retraite devient aujourd'hui un projet compliqué, long et coûteux face à de lourds travaux. Les électeurs de Villeneuve-près-Marzac retournent officiellement aux urnes en juin prochain. Ce scrutin vise à élire les 11 membres du nouveau conseil municipal. Aucun candidat ne s'était présenté lors du renouvellement général de 2026. Une délégation spéciale nommée par le préfet gère la commune depuis mars en attendant ce vote. Les inscriptions sur les listes électorales seront closes fin mai. Si aucun résultat définitif ne se dégage à l'issue de ce premier tour, un second tour sera organisé dans le même mois. Le conseil départemental de l'Aveyron rénove actuellement le palais épiscopal de Rodez. Ce chantier de 21 millions d'euros mobilise principalement des entreprises locales. Le futur site comprendra des jardins publics et des espaces de réception. L'ouverture au grand public est prévue au printemps 2028. Ce projet vise à valoriser le patrimoine historique et à renforcer l'attractivité du département. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé 2026 année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux. Dans ce contexte, le Parc national des Pyrénées engage 6 actions, parmi elles, protéger les itinéraires, lancer des recherches et former ses agents. D'autre part, 1500 vaches espagnoles franchissent le col de la Bernatoire chaque été dans les Hautes-Pyrénées. Ce programme vise à soutenir cette activité unique qui entretient la biodiversité locale depuis 7000 ans.
Un grand merci à toutes ces élèves de l'école de journalisme de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse, l'ISJT. Et c'était Jenny Lee Tiep qui était aujourd'hui donc aux commandes de ce journal. On retrouvera bien sûr l'actualité tout à l'heure à partir de 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican.
À Tarascon-sur-Ariège, 100.2.
Allez, on vous retrouve Anne-Rose Jankovic pour la deuxième partie. Et cette fois-ci, on va à Tarbes.
Oui, nous allons en plein centre-ville de Tarbes, rue de Gonesse, où hier soir ont été inaugurés les nouveaux locaux de la Ligue contre le cancer. L'occasion pour nous eh bien, d'interroger le docteur Philippe Bergerot, qui est le président national de la Ligue contre le cancer, et Annette Cuc, qui est la présidente du comité départemental des Hautes-Pyrénées de cette Ligue contre le cancer. Tous les deux nous expliquent à quel point ces bâtiments en disent long sur l'accompagnement nécessaire pour les personnes qui sont malades de cancer. On les écoute.
Depuis 108 ans, en fait, la Ligue a été créée après la guerre par Justin Godart, un Lyonnais qui avait créé la Ligue franco-américano-anglaise de la lutte contre le cancer. C'est devenu la Ligue contre le cancer et maintenant, il y a tous les comités, il y a 103 comités au niveau de la métropole et des territoires ultramarins.
Comment ça fonctionne la Ligue ?
La Ligue, alors c'est une organisation qui travaille comme une association loi 1901 avec des élus et qui n'est financée uniquement que par des dons.
L'objectif, c'est quoi au fond ? C'est de soutenir la recherche et d'accompagner les personnes malades ?
Alors, il y a quatre grandes missions. Oui. La recherche est la mission la plus connue. Comme j'ai dit tout à l'heure, 48 millions d'euros ont pu être donnés pour la recherche. Une mission qui est un peu plus nouvelle, qui est maintenant celle qui prend aussi pas mal, c'est l'accompagnement des personnes malades. L'accompagnement des personnes malades par l'intermédiaire des soins de support, mais pas que, parce qu'on l'oublie aussi, c'est qu'au niveau de la Ligue, nous avons des commissions sociales qui permettent d'accompagner des personnes malades qui sont dans le grand besoin. La troisième mission, c'est la mission sur la prévention. Et comme on dit, c'est le parent pauvre de la prévention. Ouais. Et c'est pour ça qu'au niveau de la Ligue, on était d'abord plus dans le soin et maintenant on est sur le parcours de vie. C'est-à-dire qu'on travaille dès la prévention avec la vaccination HPV, le dépistage pendant le soin et l'après-cancer. On a tout un travail qui se fait avec la Ligue Entreprise et le retour à l'emploi. Et la dernière mission qui existe, c'est une mission au niveau de la démocratie en santé. C'est la représentation des usagers et c'était la création au niveau de la Ligue d'un collectif de personnes malades. Ce sont des personnes qui sont passées par la maladie et qui nous permettent de faire remonter un petit peu un certain nombre de choses. Ça nous permet de travailler et quand on monte vis-à-vis des députés, vis-à-vis des sénats, vis-à-vis du ministre, pour faire passer un certain nombre de revendications. Et l'année dernière, il y a eu un document qui a été remis avec 10 revendications faites par le collectif des personnes malades.
Donc ça veut dire que vous êtes écoutés, les personnes malades qui remontent ces informations-là sont entendues, écoutées, et que les choses avancent. On peut dire qu'on progresse en termes à la fois de recherche, de prévention et d'accompagnement des personnes qui souffrent du cancer ?
Alors on progresse le plus au niveau de la recherche, au niveau de l'accompagnement des personnes malades, si malheureusement il y a encore des problèmes de financement, parce que les soins de support que la Ligue fait gratuitement grâce aux dons, mais si les personnes malheureusement ne peuvent pas bénéficier de ces soins de support, il y a des difficultés vis-à-vis de l'éloignement, et donc la Ligue essaie de lutter contre ces inégalités territoriales en essayant de proposer un maximum de choses, et d'ailleurs la présidente va pouvoir vous en parler, comment il se développe sur le département, parce que là vous avez un lieu important. Mais l'objectif, c'est de ne pas rester que sur ce lieu important et de travailler sur la totalité du département.
Alors, on y vient, mais j'ai quand même encore une question. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que sont vraiment les soins de support ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot-là ?
Alors, c'est vrai que c'est un mot barbare. Les soins de support, c'est tous les soins qui sont autres que la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie. Et donc, ces soins de support regroupent, dans le cadre d'une définition donnée par l'Institut national du cancer, c'est l'assistante sociale, c'est les soins d'activité physique, c'est les soins diététiques, l'accompagnement psychologique, le traitement de la douleur, le traitement des complications sexuelles liées au traitement, les aidants et aussi toute la partie sur la fécondation, donc la fertilité. Et donc, vous voyez, on a ces soins qui peuvent être en plus des soins de support, et c'est ce qui existe aussi, un certain nombre d'autres soins comme la socio-esthétique, qui est un soin extrêmement important, qui n'en fait pas partie, mais il y a d'autres choses qui sont mises, mais c'est de l'accompagnement des personnes.
Oui, c'est quand même un point sur lequel on a des progrès à faire. On entendait ça dans les prises de parole des élus, notamment, et des conseillers départementaux, de Madame la sénatrice. Là-dessus, on n'est pas si fort que ça, au fond, parce que a été relevé que les personnes les plus pauvres sont les plus éloignées de ces soins-là, de cet accompagnement-là.
Et il y a aussi un chiffre qui parle, c'est que l'année dernière, on avait fait une enquête, il y a 38% des personnes qui ne sont toujours pas informées de l'existence de ces soins de support, et dans les autres, tout le monde ne peut pas participer. Et donc, c'est extrêmement important, et c'est pour ça que des lieux comme ça sont importants. Et c'est là que vous avez un rôle fondamental, parce que c'est grâce à vous qu'on va faire savoir que la Ligue fait des soins de support.
Alors, je me tourne vers vous, Annette Cuc. Ce lieu-là, aujourd'hui, 27 rue de Gonesse, à Tarbes. L'adresse est importante de la dire et on la répétera le plus souvent possible sur l'antenne de Radio Présence. C'est important parce que c'est au cœur de la ville de Tarbes, mais on entend à travers ce que dit Dr Philippe Hergerot que c'est un lieu ici en centre-ville de Tarbes, mais que votre action, elle est partout dans le territoire.
Oui, tout à fait, puisque c'est un comité départemental. Donc, c'est important pour nous d'avoir ce lieu pour pouvoir rassembler les soins de support et pouvoir accueillir les malades. Mais effectivement, nous avons aussi développé ces deux dernières années des espaces Ligue. Alors, dans tous les coins du département, avec Bigorre-Maubourguet pour le premier, après Bagnères et Lourdes, Lourdes-Argelès, et on vient d'ouvrir Saint-Laurent-de-Nest pour essayer de couvrir à peu près tout le département. Et on y prodigue des soins de support. On fait une permanence et des prestataires font aussi des soins de support. Alors, c'est le soutien psychologique, les conseils diététiques, l'activité physique adaptée. Voilà, et la socio-esthétique. Et nous faisons aussi un peu de sophrologie, puisque c'est fortement demandé, et il y a beaucoup de prestataires aussi, donc c'est plus facile pour nous.
Donc dans tous ces lieux-là, il y a des bénévoles qui travaillent en lien avec des médecins pour pouvoir accompagner.
Ce sont des prestataires.
Hein. Donc tous des prestataires.
Tous des prestataires que nous rémunérons grâce à la générosité du public. Hein.
Voilà. Mais partout, il faut des bénévoles quand même pour porter ces lieux ou les bénévoles. le bénévolat se concentre ici à Tarbes.
Les bénévoles seront au niveau des permanences, donc pour recevoir les patients, de même qu'on visite les malades à l'hôpital de Tarbes et à la polyclinique de Lormeaux. Donc là, on a trois jours de visite et tous les jours de la semaine aussi à la polyclinique de Lormeaux. C'est important, où là, on voit les malades et on les informe, on les écoute, on les accompagne, on les informe de ce soin de support. Et en fonction de leur lieu de domicile, on leur propose des soins de support à chaque coup de coin du département. Voilà,
et l'accompagnement par la Ligue peut durer aussi longtemps que la personne en a besoin ?
Non, c'est encadré quand même. Donc il y a un certain nombre de soins de support, de séances qui sont proposées, avec une certaine latitude bien sûr, mais bon, on est obligé quand même de le cadrer. Par exemple, pour l'APA, c'est quand même 40 séances d'activité physique adaptée qui est proposée.
Alors, combien de personnes vous recevez chaque année ? Combien de personnes vous accompagnez chaque année ?
Alors, qu'on accompagne, c'est 2000 personnes à peu près.
Sur tout le département des Hautes-Pyrénées.
Alors, je vous compte celles qu'on voit dans les visites des malades à l'hôpital. Et à la polyclinique.
Elles sont accompagnées par la Ligue.
Oui, tout à fait. Et plus celles qu'on reçoit dans les permanences, mais qui sont bien moins nombreuses.
Des hommes et des femmes, c'est kiff-kiff ou les femmes ont plus de facilité à pousser la porte ?
Les femmes sont plus...
Alors, il y a peut-être un message à faire passer, là, parce que les hommes sont touchés par les cancers comme les femmes.
Je peux vous donner un exemple actuel où nous recrutons des bénévoles hommes qui sont des anciens malades. Donc pour nous c'est très important parce que des hommes on en voyait peu. On est au moins plus de 80% de femmes, des femmes à la retraite en plus. Là on a des jeunes retraités mais anciens malades qui sont venus nous voir et qui nous aident beaucoup. Donc vous voyez, il peut y avoir des hommes, mais bon, si les cours de yoga, bon, maintenant qu'on voit tout le monde venir, c'est très bien. Les cours de yoga, il y a des hommes qui sont là aussi. Donc, on est très contents justement que ça s'ouvre un petit peu plus grâce à l'information qu'on doit leur donner dans les différents lieux. Et ça s'ouvre aux hommes.
Alors, une des particularités de la Ligue, et j'espère que le comité va pouvoir aussi, c'est la mise en place des personnes ressources, des patients ressources.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Alors, les patients ressources, ce sont des patients passés par la maladie et qui sont chargé de faire l'enseignement des étudiants et accompagner d'autres personnes malades. Donc c'était le plan cancer numéro 3, la mesure 715, et c'est la Ligue qui a été promoteur. Et grâce à ça, on a pu mettre en place. Alors, ce sont des personnes qui sont passées par la maladie, qui peuvent être éventuellement en cours de traitement, mais qui ont vu une psychologue et qui sont accompagnées. Et notre objectif, c'est de pouvoir participer à la formation des étudiants, parce que bien souvent, les étudiants, ils ne voient les personnes malades que quand ils sont un peu plus avancés. Oui. C'est pareil pour les infirmières.
Donc vous apportez votre expertise, la Ligue apporte son expertise dès le début de la formation.
Et c'est des expertises de personnes qui vont raconter leur histoire. Et c'est par petits groupes, on ne veut pas intervenir devant un amphithéâtre, c'est par un petit groupe de 10 à 12 personnes. Et l'objectif, c'est de montrer qu'une personne malade, ce n'est pas un numéro de dossier. Que c'est une personne. Et lorsque l'on parle à une personne, on n'a pas du tout la même attitude. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Ma dernière question, elle est sur les cancers pédiatriques, puisque malheureusement, il y en a aussi. Ce lieu-là, ici à Tarbes, de la Ligue contre le cancer, est-ce qu'il peut aussi être un lieu d'accompagnement pour les enfants ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce cancer pédiatrique ?
Non, enfin, en tout cas, pour l'instant, non. Donc, on n'a pas ce type de demande, parce qu'ils sont soignés à l'oncopole aussi. Donc, je pense qu'il y a une structure là-bas qui les prend en charge. Par contre, ce que je peux vous dire, parce que tu en as parlé tout à l'heure, c'est moins rigolo, j'allais dire, moins plaisant, c'est qu'on a un groupe de parole de parents endeuillés.
C'est très important,
donc c'est pour ça que je le souligne, parce que effectivement on voit pas les enfants. Alors les Rubis s'occupent d'enfants qui ont un cancer.
Rubis, c'est une association d'Argelès.
Voilà, la session de Rubis Santé d'Argelès. Elles ont un petit garçon dans leur groupe qui fait du rugby avec elles, qui est atteint d'un cancer. Donc voilà, par d'autres voies, mais bien sûr ils sont traités plus loin que chez nous. Des fois, ils ont un traitement à l'hôpital de Tarbes, mais il n'y a pas de service oncologie pédiatrique sur notre département.
Globalement, c'est quelque chose au niveau de la Ligue nationale. On sait que la pédiatrie, c'est limité dans un certain nombre de centres, on s'occupe plus de l'accompagnement des aidants. Oui, parce que c'est extrêmement important, les aidants, les spécificités pour les enfants, il y a d'autres associations avec qui on travaille, mais c'est les parents et la difficulté pour les parents de pouvoir accompagner ces enfants. Et comme le dit Annette, le gros problème, c'est que quand on habite Tarbes et qu'on doit être traité à l'oncopole, bien souvent, il y a un des parents qui doit être un petit peu isolé, ça a des difficultés au niveau de la famille, et donc ce retentissement, la Ligue est là pour essayer d'accompagner les gens au maximum.
Oui. On peut les aider financièrement, par exemple, pour un transport, hein, voilà, parce que ça peut arriver, effectivement, quand il y a beaucoup d'allées et venues.
Donc la Ligue est quand même en réseau avec toutes les autres œuvres qui accompagnent.
L'Oncopole a nos soins de support, hein, ils informent les malades qui repartent chez eux, hein, qui sont traités à l'Oncopole à Toulouse, mais qui reviennent chez eux dans notre département, ils ont déjà l'information à ce niveau-là.
Voilà. Alors, en tous les cas, on peut dire que c'est un beau lieu. Alors évidemment, on préférerait qu'il n'y ait pas besoin de lieux comme ça, mais en tous les cas, c'est un lieu à la fois d'accompagnement, de soins, mais de solidarité aussi.
De solidarité. Et malheureusement, je crains que des lieux comme ça, on aura toujours besoin, parce que même si on guérit de plus en plus de personnes malades, parce qu'on le dit clairement, le nombre de cancers augmente, mais le nombre de personnes en vie augmente. Et donc, on aura toujours besoin d'avoir des personnes qui se rassemblent après la maladie et qui réfléchissent pour pouvoir trouver du travail, etc. Donc, je pense que la Ligue aura toujours cette mission d'aider les personnes malades et d'œuvrer autour de la prévention. Parce que si on veut qu'il y ait moins de maladies, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent de la prévention et des vaccinations.
Merci beaucoup.
On peut finir par une note optimiste, où quand même les traitements ont beaucoup évolué ces dernières années, notamment avec l'immunothérapie. Et donc c'est vrai que certains cancers qu'on ne soignait pas ou de façon très restreinte avant sont beaucoup mieux soignés.
Par exemple, quels sont les cancers en particulier qu'on soigne comme ça ?
Le cancer du poumon, par exemple, hein, voilà, le mélanome, voilà, qui reste, voilà, et certains cancers digestifs.
Donc, chez les enfants, le taux de guérison est de 85% aussi maintenant, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Le problème pour les enfants, c'est qu'à chaque fois qu'un enfant est malade, c'est très compliqué émotionnellement, c'est voilà, mais autrement, et le grâce au traitement et les prises en charge coordonnées, nous avons quand même de plus en plus d'enfants qui vivent bien et qui vivent avec le moins de séquelles possible, parce que c'est pas le tout de guérir les personnes, mais c'est de limiter au maximum les séquelles.
Merci beaucoup.
Merci
à vous. Merci.
Voilà, merci aussi à Anne-Rose Jankoviquet pour cette immersion donc à l'inauguration des nouveaux locaux de la Ligue contre le cancer pour le département des Hautes-Pyrénées, 27 rue de Gonesse. Vous avez un comité dans chaque département, donc si vous avez besoin d'informations, mais si vous avez besoin aussi d'aide, si vous êtes en traitement, sachez qu'il existe donc ces soins de support qui vous permettent, eh bien, pendant ou après le traitement, eh bien, de vous sentir mieux, comme par exemple une psychologue qui peut vous aider à passer le cap de la maladie, et puis également du yoga, de la relaxation, voilà, qui vous permettent aussi d'être au mieux. Et puis vous l'avez entendu aussi, des aides financières, car souvent malheureusement il y a la double peine. Voilà, nous allons continuer cette émission et nous allons nous balader et nous allons prendre même de la hauteur, puisqu'on part du côté du pic du Gers avec l'office de tourisme de Lourdes et Gilles Galbardi.
Radio Présence à Cahors, 92.5. Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Et dans cette chronique, on va prendre un peu d'altitude avec le funiculaire du Pic du Gers à Lourdes. Et c'est Julie qui va nous servir de guide. Bonjour Julie.
Bonjour Gilles.
Vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes et chaque semaine, on se retrouve sur Radio Présence. Je le disais, les Lourdais connaissent bien ce funiculaire de Lourdes, mais ils connaissent peut-être un peu moins bien l'histoire de ce funiculaire. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler, cette histoire ?
Oui, bien sûr. Alors, le funiculaire du Pic du Gers, il est né déjà de l'essor un petit peu des visiteurs et des pèlerins qui ont déjà été très nombreux dès l'année des apparitions en 1858. Et encore plus à partir du 9 mars 1866, puisque c'était l'arrivée du chemin de fer. La gare de Lourdes a été inaugurée à cette date. Et là, de plus en plus de pèlerins, de curieux, ont eu plus de facilité aussi pour venir jusqu'à Lourdes. Donc là, l'idée est née de leur proposer beaucoup plus d'activités, de nouveautés un petit peu, et de quoi faire en même temps pendant leur séjour et leur pèlerinage.
Avant de parler du fonctionnement donc de ce funiculaire, un mot donc des travaux qui ont débuté en 1898.
Exactement, les travaux ont commencé en août 1898. C'est un funiculaire qui a été conçu par l'ingénieur Chambrelan. Ça a été l'un des premiers funiculaires à être construit en France, puisque son utilisation pour le transport de passagers est assez récente dans l'histoire. Ça a été mis au point vers 1825 en Angleterre. Et les travaux se sont terminés en décembre 1899. Donc ça a été assez rapide comme construction. Donc il faut savoir qu'un funiculaire, c'est une remontée mécanique équipée de deux cabines, en fait, qui vont faire contrepoids avec un câble, en fait. D'où le nom de funiculaire, funiculum en latin. Donc ce câble, finalement, qui va permettre de tracter les cabines sur un plan incliné. Et ça va permettre de passer un petit peu les déclivités de terrain. Il va y avoir ensuite un système de moteur qui permet également de compenser si jamais une cabine est plus lourde que l'autre en termes de passagers ou si, voilà, s'il y a besoin de compenser un petit peu le poids.
Donc il y a deux cabines, une qui monte et une qui descend.
Exactement, et la cabine qui descend entraîne la montée de l'autre. C'est vraiment un système très ingénieux. Donc la mise en fonctionnement du funiculaire du Pic du Gers a été réalisée en mai 1900 et le funiculaire a été inauguré officiellement le 17 juin de cette même année.
Alors depuis, évidemment, il y a eu des opérations de maintenance pour que ce funiculaire continue encore aujourd'hui à fonctionner.
Tout à fait. D'abord dans les années 1950, c'est les cabines qui ont été rénovées puisqu'autrefois elles étaient en bois, donc elles ont été changées, un petit peu plus modernisées. Et aussi dans les années plus récemment, 1990, là c'est plutôt le système de machinerie et de moteurs qui ont été changés. En 1900 également, il y a eu l'installation de la Grande Croix que l'on peut voir tout à fait au sommet du Pic du Gers, à 948 mètres d'altitude.
Alors, un mot donc de ce funiculaire. Lorsqu'on prend le funiculaire en bas et qu'on arrive en haut, on peut dire que la vue est magistrale lorsqu'on arrive au sommet du Pic du Gers.
Tout à fait. Il y a un magnifique point de vue à 360 degrés sur toute la chaîne des Pyrénées. On peut aussi voir le Pic du Midi, la ville de Lourdes en contrebas. Il faut savoir que l'altitude, quand on démarre avec le funiculaire en bas, est à 450 mètres. On arrive à la gare supérieure à 888 mètres. Et ensuite, il y a une petite marche, une petite randonnée pour arriver jusqu'à tout à fait au sommet. En gros, on franchit à peu près 438 mètres de dénivelé en 10 minutes. Donc c'est quand même assez rapide.
Assez rapide. Et c'est évidemment une visite incontournable pour tous les visiteurs qui viennent à Lourdes.
Tout à fait, c'est une des visites incontournables avec la visite bien sûr du sanctuaire ou du château. C'est vrai que le funiculaire permet de prendre un petit peu plus de hauteur et permet d'avoir une vue d'ensemble sur tous ces magnifiques sites pyrénéens.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que le funiculaire fonctionne à peu près au même moment que la saison des pèlerinages, il n'est pas ouvert toute l'année.
Tout à fait, d'avril à octobre, on peut en profiter. On peut en profiter donc pour monter avec ce funiculaire. On peut aussi toute l'année y monter à pied. On peut aussi utiliser le funiculaire notamment pour profiter du bike park qui est sur les pentes du Pic du Gers pour monter en vélo et faire les descentes, monter en funiculaire et faire les descentes à vélo.
On peut aussi, quand on emprunte le funiculaire, regarder la gare de départ qui est aussi d'époque.
Tout à fait, la gare inférieure qui est une très jolie gare dans le style de l'époque. Vous trouverez aussi dans la gare supérieure des photos d'archives du funiculaire et de la construction du funiculaire, où on peut voir justement les ouvriers un peu suspendus en l'air quand ils construisaient les 12 arches du viaduc, et également les deux grands tunnels qui ont été creusés à même la roche calcaire du funiculaire. C'est assez impressionnant.
Voilà pour le funiculaire du Pic du Gers de Lourdes, donc ce funiculaire qui est ouvert d'avril à octobre. Si on souhaite se renseigner, le site internet de l'Office de Tourisme est à la disposition des auditeurs. Et moi, il me reste qu'à vous remercier, Julie. Je rappelle que vous faites partie de l'Office de Tourisme de Lourdes. Et on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine, pour une nouvelle balade en Pays de Lourdes.
Merci beaucoup, à bientôt.
Balade en Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner, car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme et malgré ça il m'aime encore. Et moi je t'aime pas plus fort, mais il m'aime encore. Et moi je t'aime pas plus fort, et malgré ça il m'aime encore. Et moi je t'aime pas plus fort, mais il m'aime encore. Et moi je t'aime pas plus fort, et malgré ça il m'aime encore. Et moi je t'aime pas plus fort, mais il m'aime encore. Et moi je t'aime pas plus fort.
Présence, place du Capitole, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Léon XIV est arrivé en Guinée équatoriale, dernière étape de son voyage apostolique en Afrique.